France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Arrogance, colonialisme, cupidité, incompétence, accuse le premier. Inadmissible. Responsabilité historique et criminelle, réplique l'autre. Voilà quelques semaines que Recep Erdogan, le président turc, et Emmanuel Macron échangent des noms d'oiseaux. Le gaz est un élément inflammable, même sous l'eau, quand s'y ajoutent les rivalités régionales, la surenchère nationaliste et la perspective à moyen terme de revenus importants, le risque d'explosion devient réel. C'est le cas en mer du Levant, là où la Turquie, la Grèce, Chypre, mais aussi la Libye, l'Égypte, Israël et le Liban se partagent les rives de la Méditerranée orientale. D'immenses champs gaziers y ont été découverts il y a une dizaine d'années, et depuis, friction et contestation des frontières maritimes s'aggravent. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les enjeux économiques qui l'emportent, mais bien des ambitions géopolitiques rivales qui fracturent l'Alliance Atlantique et embarrassent l'Union européenne. Au-delà de l'affrontement entre la Grèce et la Turquie, lié par la géographie et divisé par l'histoire, la crise accroît le risque d'accrochages armés et tourne au duel entre Paris et Ankara, entre un président turc en pleine fièvre nationaliste et son homologue français, soucieux d'affirmer le rôle géopolitique de l'Union européenne. L'incendie d'un camp de migrants dans l'île grecque de Lesbos vient de rappeler ces jours-ci la gravité du drame migratoire. La Méditerranée orientale est-elle aujourd'hui la mère de tous les dangers? C'est ce que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Dorothée Schmidt, bonjour. Vous êtes la responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Avec nous, et je l'en remercie, Anna Kreti, professeure d'économie à Paris Dauphine, directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel. À Athènes, Loukas Tsoukalis, vous présidez, Loukas, la Fondation hellénique pour l'Europe et la politique étrangère. Vous êtes professeur affilié à l'École d'affaires internationales de Sciences Po à Paris. Ahmet İnsel, économiste, éditeur et politologue turc. Vous êtes un opposant au régime de Tayyip Erdogan, mais vous connaissez admirablement, bien évidemment, les problèmes de votre pays. Et Cyril Brett, je ne vous oublie pas, bonjour, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Dorothée Schmidt, Emmanuel Macron a réuni en Corse, c'était jeudi dernier, les pays riverains de la Méditerranée, plus le Portugal, pour édifier en fait un front commun en soutien à la Grèce et à Chypre contre la Turquie. Est-ce qu'il est arrivé à cristalliser, à solidifier ce front commun au sein des pays méditerranéens?
Oui, certainement. Alors on sait que sur cet affrontement avec la Turquie, Emmanuel Macron campe sur une ligne dure avec les Grecs et les Chypriotes. L'enjeu pour lui, c'est un enjeu au-delà de cette question méditerranéenne qui concerne aussi la renégociation du pacte migratoire. Sur des questions vraiment internes européennes, on va avoir besoin de créer des équilibres, une sorte d'alliance interne finalement à l'Union européenne. Ce qui était important pour lui, c'est que l'Italie sur cette question turque est un peu plus hésitante. L'Espagne aussi sont des pays qui étaient favorables à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, par exemple, et qui aujourd'hui sont plutôt inquiets de l'escalade en Méditerranée.
Et qui se sont sentis abandonnés sur le plan
sur la question migratoire, absolument. Donc là, on a le sentiment qu'on a eu quelque chose qui plutôt avait une vocation à nouveau à rassurer les Grecs. Ce qui, moi, m'inquiète un peu sur la montée en tension, c'est qu'Emmanuel Macron a déclaré que la Turquie n'était plus un partenaire en Méditerranée orientale. Et je trouve un peu problématique de déclarer ça alors que la procédure d'adhésion n'est pas formellement arrêtée.
Oui, mais enfin, elle est tellement gelée.
Enfin, formellement, mais pas institutionnellement, disons. Elle est gelée, mais elle existe toujours.
Alors, les Turcs ont réagi, donc hier, vendredi, pour dénoncer, je cite, la déclaration biaisée des pays du sud de l'Union européenne. Et le porte-parole turc invite la Grèce à renoncer à ses revendications illégales et maximalistes, dit-il. Tout cela, évidemment, il faut le comprendre, en amont d'un Conseil européen le 24 et 25 septembre, où là, Emmanuel Macron va tenter, avec ses alliés méditerranéens, si j'ose dire, d'imposer des sanctions. En tout cas, il y a une menace de sanctions additionnelles à l'encontre des Turcs.
Oui, le haut représentant pour la politique étrangère en a parlé aussi, donc c'est quand même un sujet qui circule au sein de l'UE et sur lequel il y a une vraie réflexion commune. Je crois que la problématique aujourd'hui pour nous, c'est plutôt la montée en tension militaire, puisque là on a une spécificité française. Les Français ont envoyé 2 rafales et 2 bâtiments à l'appui des Grecs pour dissuader, c'est ça la position française officielle, les Turcs de s'aventurer à nouveau dans les eaux territoriales grecques. Et finalement, les deux processus ne sont pas complètement liés. C'est-à-dire que là, on a quand même une décision souveraine française qu'on peut comprendre davantage dans le cadre d'un affrontement avec la Turquie, un affrontement symbolique de puissance, mais qui aussi a eu lieu sur la question libyenne au mois de juin dernier. Donc on a vraiment une question militaire entre les deux.
Il y a eu un incident avec une frégate,
frégate française qui a été menacée par des Turcs de tir alors qu'elle souhaitait contrôler un bateau pavillon tanzanien et dont on soupçonnait qu'il apportait des armes en violation de l'embargo donc au gouvernement de Faïz el-Sarraj en violation de l'embargo sur la livraison des armes en Libye.
Ce qui s'est imposé aussi jeudi aux participants à cette réunion en Corse, c'est évidemment la crise migratoire avec ce terrible incendie dans le camp de Moria à Lesbos, plus de 12 000 migrants qui continuent de survivre dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. 400 mineurs ont été évacués de l'île, des enfants migrants. Et il y a un accord entre Paris et Berlin, et une dizaine de pays européens sont d'accord pour prendre ces enfants, mais ça prouve bien que le prochain Conseil européen n'échappera pas pour la énième fois à une tentative de définir enfin un consensus sur la crise migratoire. C'est quand même un scandale absolu que l'Union européenne n'y parvienne pas.
Oui, on est à l'aube d'une nouvelle crise migratoire, peut-être avec la catastrophe libanaise cet été, qui va probablement renvoyer également des migrants syriens, mais aussi éventuellement libanais vers l'Europe.
Ahmed Insel, je me tourne vers vous, bien que vous soyez au téléphone. La répression continue de sévir dans votre pays d'origine, la Turquie. 5 journalistes viennent d'être condamnés encore ces derniers jours. On a l'impression que ce duel verbal, cette escalade d'épithètes échangées entre le président turc et son homologue français, c'est presque un carburant pour Ankara.
Oui, tout à fait, c'est un carburant. D'ailleurs, je viens de lire il y a quelques heures la déclaration du vice-président du principal parti d'opposition, du Parti républicain du peuple, par rapport aux déclarations de Macron qui disait nous ne visons pas le peuple turc, mais nous visons le gouvernement d'Erdogan et Erdogan en personne. Donc Macron faisait cette distinction. Or, l'opposition, le vice-président du principal parti d'opposition, il dit « La politique extérieure est pour nous une question nationale. Nous soutenons dans cette question le gouvernement, même si nous nous opposons férocement sur les questions à l'intérieur du pays. » Donc, voyez, de ce point de vue-là, le nationalisme est un facteur d'unité politique facile à obtenir en Turquie, comme d'ailleurs en Grèce, hein, dans la plupart des pays de la région, malheureusement. Et de ce point de vue-là, Tayyip Erdogan, évidemment, va encore plus monter les enchères tant que il n'y a pas de conséquences négatives de ces joutes verbales. À l'intérieur du pays, il y a une crise économique, une vraie récession qui s'installe, le chômage est élevé, la livre turque se déprécie de jour en jour et avec une vitesse importante, les gens sont mécontents, le Covid-19 reprend de plus belle et ça devient très inquiétant dans la plupart des régions, notamment Ankara, et Tayyip Erdogan est de ce point de vue-là a trouvé une parade pour couvrir, pour éviter les critiques vis-à-vis de son action en interne dans cette confrontation. Et malheureusement, la position de Macron lui facilite la tâche.
Il y a manifestement une érosion, en tout cas du soutien de l'électorat. Je lisais quelque part un sondage, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont fiables, mais qui accorderait au parti, donc à l'AKP, au parti présidentiel, 30% de popularité.
Tout à fait.
Et il y a cette alliance avec l'extrême droite turque. Qu'est-ce que ça veut dire?
La dernière fois quand Tayyip Erdogan a gagné de par ses forces les élections sans faire d'alliance, c'est quand il a fait répéter les élections en 2015, en novembre 2015. Et depuis, pour faire passer le changement constitutionnel pour mettre en place un régime hyper-présidentiel en 2017, pour être réélu comme président en 2018, il a été obligé de faire alliance avec l'extrême droite nationaliste qui lui apporte 10 à 15% des voix selon les situations. Son parti, effectivement, a beaucoup perdu dans l'électorat. Lui, il a peut-être un peu plus personnellement de capacité de mobilisation électorale, mais individuellement, son parti et lui, sans faire alliance avec l'extrême droite nationaliste, ne peut pas passer la barre des 50%. Et ça, c'est devenu une nouvelle donne depuis quelques années en Turquie, où Tayyip Erdogan est pris en piège avec l'extrême droite ultranationaliste d'un côté et les milieux militaires dans la bureaucratie civile et militaire de l'État qui sont aussi très nationalistes, critiques vis-à-vis de l'OTAN et qui ont le regard tourné vers l'Eurasie. Et c'est eux qui sont les promoteurs de ce fameux plan qu'on appelle la patrie bleue, c'est-à-dire les îles grecques de mer Égée et de Dodécanèse sont sur le plateau continental turc, grosso modo. Ils n'ont pas droit à un plateau continental.
Donc le programme s'intitule « La patrie bleue ». Partons à Athènes, vous rejoindre Loukas Soukalis. Pour la Grèce, et quand on a la carte en tête, avec une centaine d'îles, et notamment les îles du Dodécanèse, qui sont à proximité véritablement des rives turques, c'est un enjeu existentiel?
Oui, d'abord c'est un enjeu économique, parce qu'on doit délimiter des zones maritimes. Quelquefois, on a la tendance à exagérer l'importance économique de ces zones maritimes. On sait que les Israéliens, les Égyptiens et les Chypriotes ont trouvé du gaz. Il y a une possibilité qu'on va trouver aussi dans d'autres parties de la Méditerranée orientale ou même de la mer Égée. Mais il y a deux choses qu'on doit garder en tête. D'abord, avec les prix tellement bas qu'on a maintenant dans les marchés internationaux, toute découverte du gaz à Méditerranée orientale n'est pas exploitable du point de vue économique. En plus, on doit garder en tête l'autre chose, c'est que nous allons vers une transition verte. Ça veut dire que la période du temps qu'on pourrait utiliser éventuellement, on pourrait exploiter éventuellement des ressources énergétiques est très limitée. Alors, j'ai l'impression que de deux côtés, côté turc et côté grec, on a la tendance à exagérer l'importance de l'enjeu économique.
Mais on a bien vu votre Premier ministre, Mitsotakis, qui participait bien évidemment à la réunion de jeudi dernier en Corse, on a bien vu à quel point il se félicite évidemment du soutien français et il espère un soutien plus précis encore, plus cohérent de la part de l'Union européenne pour que des sanctions soit infligé à la Turquie lors du prochain Conseil européen à la fin septembre.
Oui, vous avez raison. Mais on doit tenir en tête que pour la Grèce, l'enjeu n'est pas vraiment économique. C'est beaucoup plus que ça. Quand on parle de délimitation des zones maritimes, on parle aussi d'un problème existentiel pour les îles grecques. Parce que si on accepte d'avoir ces îles encerclées par des navires turcs, il y a un problème, il y a un danger. Vous avez de l'autre côté un voisin qui vous invite pour un dialogue, ça veut dire le président turc, mais en même temps, il vous menace Alors, on vous propose d'aller à une table de dialogue avec un pistolet sur la table, ou plutôt dirigé vers votre tête. Et ce n'est pas une forme de dialogue que les Grecs peuvent engager. Alors, quand la Grèce s'adresse vers ses partenaires européens, et surtout vers la France, ce n'est pas seulement pour un soutien dans un enjeu économique, c'est beaucoup plus que ça. C'est un enjeu géopolitique et aussi de s'engager avec un pays, la Turquie de M. Erdogan, qui commence à dépasser les limites du comportement d'un pays, j'ose dire, même civilisé. Les menaces, les adjectifs qu'on utilise, vraiment dépassent les limites.
Lucas, restez avec nous quelques minutes encore, si vous le voulez bien. Je voudrais vous demander, Anna Créti, bonjour. Je rappelle que vous enseignez à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes spécialiste des questions d'énergie. On a vu que l'escalade avec la Turquie a commencé pendant l'été quand la Turquie a envoyé un bateau de mesure sismique dans la zone grecque. Et donc, pour comprendre cette idée de zone telle que Lucas Tsoukalis vient de l'évoquer, expliquez-nous d'abord le droit de la mer. En quoi est-ce que cela consiste, cette idée de zone?
Alors, le concept de zone économique prioritaire a été institué par un traité, le traité de Montego Bay en 92. Ce traité n'a pas été ratifié, encore une fois, par la Turquie.
Ni par Israël, je crois.
Ni d'ailleurs. Par Israël.
Enfin, en l'occurrence, c'est la Turquie qui compte.
Voilà, tout à fait. Ce traité, en fait, définit un espace qui est de 200 000 marines et qui donne une autorisation d'exploitation des ressources naturelles qui peuvent être d'abord en exploration et après exploitées aux alentours donc de cette distance.
Donc ça représente quoi?
Les problèmes justement
370 kilomètres au maximum.
Maximum. Alors le problème c'est que quand on trace justement la frontière définie par ces traités, même voilà, si on les prend des côtes turques, on tombe justement sur un pays de la discorde qu'on n'a pas encore cité dans notre raisonnement, Chypre.
Bien sûr.
Et c'est là où on a une difficulté ultérieure, parce que les champs gaziers dont on parle sont à cheval entre la zone d'exploitation possible par la Grèce, qui elle a bien sûr ratifié ces traités et qui l'a renforcé avec cet été avec un traité spécifique signé avec l'Égypte en premier et d'autres pays exploitants gaziers. La zone qui, si on part en fait à la verticale par rapport aux côtes turques, tombe sur la partie nord de Chypre, qui est un pays officiellement non reconnu et sous l'emprise en plus turque.
Donc la Chypre turque, il faut rappeler que Chypre est membre à part entière de l'Union européenne. Il s'agit évidemment
de la partie sud,
enfin, ouais. Si j'ose dire, de la partie grecque, pour simplifier.
Oui, voilà. Pour simplifier. À Chypre, il y a à nouveau les deux pays qui s'affrontent parce que il y a eu un coup d'État et ça fait effectivement là aussi 45 ans que cette question n'a pas été résolue et je pense que les bas blessent aussi du côté de l'Union européenne.
Alors la géographie complique les choses parce que quand on voit la carte, à la radio c'est difficile, mais quand on voit la carte de la Méditerranée, on voit que la Méditerranée orientale c'est vraiment un coin enfoncé.
Oui. Et voilà. Et les ressources naturelles ont aussi le chic d'aller se nicher dans ces enclaves. Bon, ça, c'est effectivement toujours un problème, hein. Les ressources naturelles sont là, peut-être, où on ne les attend pas. Et il faut préciser que la zone en question, c'est une zone où on fait encore les explorations. Et c'est intéressant de voir que ces champs de gaz ont tous des noms mythiques, Léviathan, etc., parce que peut-être, comme justement l'intervenant précédent le rappelait, ils resteront à l'état mythique. C'est-à-dire qu'on fait encore des explorations et le gaz est bien profond. Il est à 2000 kilomètres en dessous de la surface de la mer, donc il faut vraiment aller le chercher. Et ce n'est pas quelque chose d'immédiat.
Et donc, on voit bien que ce sont les enjeux géopolitiques qui l'emportent et qui expliquent les traités bilatéraux qui ont en, fleuri, en quelque sorte, il y en a eu au cours de l'été plusieurs.
Oui.
Donc la Turquie a riposté à l'accord auquel vous faisiez allusion entre la Grèce, l'Égypte, Chypre et Israël, un accord avec la Libye.
Oui.
Où là, et ça ajoute encore Dorothée Schmidt,
notre pays sympathique,
aux différends avec la France, puisque en Libye, la Turquie soutient ouvertement le régime, qui est d'ailleurs le régime officiel du président ou du premier ministre Sarraj, alors que la France a soutenu entre les lignes, ou même un peu plus, ce maréchal Haftar, qui pour le moment a perdu la partie. Alors, Anakriti faisait allusion à la poésie des noms. Il y a eu des manœuvres navales communes, franco-grecques, cet été, répondant au très beau nom d'Irini. Irini en grec, ça veut dire la paix, si je ne m'abuse. Mais ça veut dire quand même, Dorothée, qu'il y a un risque d'accrochage, autant naval qu'aérien d'ailleurs, réel. Avec plusieurs manœuvres. Je crois qu'il y a une manœuvre dans le cadre de l'OTAN qui est prévue à la fin du mois.
Alors, il y a eu des. Alors, l'OTAN manœuvre beaucoup dans la région puisque tous ces pays sont membres de l'OTAN par ailleurs.
Oui.
Donc, il y a des manœuvres avec les Grecs, il y a des manœuvres avec les Turcs. Les Américains sont très, très ambivalents en réalité. Ils n'ont pas envie de contrarier tellement les Turcs parce que de toute façon, ils souhaitent se retirer de la région et ils souhaitent que les Turcs jouent un rôle de stabilisateur dans la région. Pour le moment, les Français vous répondront que les Turcs jouent tout sauf les stabilisateurs, qu'au contraire, ils sont les principaux fauteurs de troubles dans la région. Je crois que les Turcs ont baptisé leur dernière manœuvre avec les Chypriotes turcs, tempête, je ne sais quoi, donc ça c'est encore
pacifique.
Dans l'escalade rhétorique. Ce qui inquiète tout le monde et qui fait qu'on a l'impression qu'on a des bruits de bottes, c'est qu'effectivement maintenant on a des bâtiments de guerre en fait, pas simplement des navires d'exploration. Les Turcs ont envoyé très tôt à Chypre des navires d'exploration qu'ils ont fait escorter par des bateaux militaires.
Et de même aux alentours de Castelorizo, qui est cette toute petite île grecque, mais qui est à 2 km pour le coup de la côte turque.
Début août, les Turcs sont allés, enfin, envoyer une petite armada dans les eaux territoriales grecques. Ce qui a évidemment alerté tout le monde. Maintenant, la question est, est-ce qu'on est sur un scénario de dissuasion des Turcs ou est-ce qu'on est vraiment déjà dans une escalade militaire et est-ce qu'on peut aller vers un incident ? Est-ce que l'une des deux parties a intérêt à ce qu'il y ait un incident militaire ? Moi, je pense que les Turcs s'accommoderaient en réalité assez facilement d'un incident militaire. Ils en ont déjà provoqué ou subi ces dernières années dans la région, essentiellement autour de la crise syrienne. Il y a eu aussi l'incident du Mavi Marmara avec les Israéliens en 2010. Et à chaque fois, les scénarios de sortie de crise sont différents, mais c'est quelque chose qui ouvre une autre forme de relation. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un moment de partage des eaux, hein, puisqu'on est dans la poésie aquatique, où les anciennes alliances sont en train de se défaire et de peut-être se recomposer.
Avant de voir avec vous, Cyril Brett, l'aspect complexe de l'Alliance Atlantique, enfin une alliance qui est évidemment mise à mal par ces tensions accrues, retournons à Athènes, vous rejoindre Loukas Tsoukalis. Une rumeur, je crois, court d'un achat grec de Rafale, ce qui voudrait dire qu'il y a une course aux armements qui reprend de plus belle dans cette partie de l'Europe.
Oui, c'est l'alliance franco-grecque, mais en même temps, c'est, disons, on commence à investir aux armements, qui devient très difficile et très dangereux dans la région. C'est la dernière chose que j'aimerais voir. C'est clair que la Grèce et la Turquie doivent se dialoguer, parce qu'il y a des choses à parler entre nous, et avoir la présence européenne comme intermédiaire, comme arbitre, serait très utile, mais en condition que ce dialogue sans menace et sans des mesures provocantes. Parce que cette forme de dialogue ne pourrait pas être acceptable par n'importe quel gouvernement grec. Et c'est là où nous sommes, parce que le langage qui provient d'Ankara va à deux directions totalement différentes. D'un côté, le président, le premier ministre turc
appellent tout le monde à un dialogue. Et de l'autre côté, ils envoient des navires ou ils envoient des avions qui survolent les îles grecques. Alors, on se demande, on veut sincèrement un dialogue sérieux ou non?
Lucas,
on veut seulement imposer la volonté du plus fort.
Oui, mais il y a l'autre volet, bien évidemment, même si on a bien compris, grâce à Anna Kreti, à Dorothée Schmidt et à vous-même, que l'enjeu du gaz, en fait, devient secondaire. Il y a aussi la crise migratoire. Et on se souvient qu'au début de l'année, avant l'offensive de la Covid-19, Ankara avait dépêché des migrants vers la frontière grecque. On a vu ces derniers jours ces incendies dans le camp de Moria à Lesbos, avec l'évacuation là de 400 migrants mineurs. Néanmoins, votre Premier ministre a, lors de cette réunion en Corse jeudi, à nouveau sollicité ses partenaires européens pour que la crise migratoire soit abordée lors du prochain Conseil européen. Quels sont les espoirs côté athénien?
Il faut se rappeler que la Grèce a été obligée de gérer deux crises majeures en même temps, il y a quelques années. C'était la crise économique qui a conduit à la baisse du PNB grec de 25%, et aussi gérer une crise migratoire. Je vous rappelle qu'à 2015, 1 million d'immigrants ont traversé le pays, venant du côté turc. Cette année, nous avons eu une chose nouvelle, c'est-à-dire l'instrumentalisation des immigrants par l'État turc, parce que c'était organisé par le ministère des Affaires intérieures pour envoyer des milliers, des dizaines de milliers d'immigrants vers la frontière grecque. Alors, ça, c'était arrêté. Mais nous avons eu maintenant cet incendie à Lesbos. C'est vraiment une catastrophe et c'est terrible, parce que ces gens-là, il y avait beaucoup plus qu'il y avait d'espace.
Oui, plus de 12 000 personnes dans des camps qui sont censés en abriter le tiers.
Absolument. Ouais. Alors, je pense, c'est moi, j'ai dit toujours, le gouvernement grec, pas celui d'aujourd'hui seulement, mais aussi ses prédécesseurs, ont une responsabilité. On devrait avoir fait quelque chose avec ces camps avant l'incendie.
Lucas Tsoukalis, vous savez aussi que plusieurs ONG parfaitement crédibles accusent le gouvernement grec de refouler des migrants vers la Turquie délibérément. Il y a eu d'ailleurs un papier dans le New York Times pendant l'été qui, je crois, a fait beaucoup de remous en Grèce. Le gouvernement grec s'est aussi engagé à construire de nouveaux centres d'enregistrement de migrants, mais évidemment les insulaires dans ces îles du Dodécanèse, à commencer par les habitants de Lesbos, protestent contre cette situation. Donc c'est en termes de politique intérieure, c'est pas simple non plus, mais selon vous, est-il exact que le gouvernement grec encourage les insulaires ou les gardes-côtes à refouler les bateaux pneumatiques qui arrivent tant bien que mal de Turquie?
De ce que je sais, ou plutôt la position officielle, est qu'on ne fait pas ça.
Oui.
Je ne peux pas vous rassurer. D'accord? C'est possible, et si c'est vrai, je le déplore. Mais de l'autre côté, on doit prendre en considération que gérer cette crise pour n'importe quel gouvernement grec est vraiment très difficile ou sinon impossible. Parce que vous avez des milliers d'immigrants dans des petites villes. Alors, l'esprit d'hospitalité ou de l'ouverture d'esprit au début commence à disparaître. Alors, il y a une pression des habitants qu'ils disent qu'on a assez. C'est très difficile de transférer les immigrants dans d'autres régions de Grèce. Un nombre considérable de nos partenaires européens ont absolument aucune envie de partager le fardeau. Alors, la Grèce risque de devenir une sorte de camp de concentration d'immigrants. C'est terrible à dire, mais c'est la triste vérité.
Et c'est une vérité tristement partagée par la Turquie. C'est un autre paradoxe de cette crise, c'est qu'il faut rappeler que la Turquie abrite, Dorothée Schmidt, quoi, près de 3 millions de Syriens.
Oui, 3 ou 4 millions de Syriens, oui. Je pense qu'on a un peu perdu. Le...
Lucas Soukalis, merci mille fois d'avoir été avec nous par téléphone. Cyril Brett, pardon, ne vous a pas encore entendu, mais il est temps de nous intéresser à cette autre dimension de la crise méditerranéenne qui concerne évidemment l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sans doute l'une des crises les plus graves de son histoire. Avec cette particularité, me semble-t-il, c'est que rien dans le texte de ce traité, ratifié, il faut bien le dire, par la Grèce et par la Turquie, au même moment d'ailleurs, rien n'a été prévu pour résoudre une crise de cette nature entre membres.
Oui, une organisation militaire n'est pas un tribunal d'arbitrage, et si l'OTAN est évidemment traversée de tensions multiples, tout particulièrement entre la Grèce et la Turquie dans le passé et aujourd'hui, aucun mécanisme de résolution des conflits n'est prévu. Ce n'est d'ailleurs pas la vocation, en fait, hein, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de résoudre les tensions. Et c'est pour cette raison que les différents protagonistes, comme vous l'avez déjà mentionné, font appel à d'autres réseaux d'alliances qui se reconfigurent très rapidement. On a déjà évoqué l'alliance franco-grecque, bien sûr. La solidarité entre les différents protagonistes de l'exploitation des champs gaziers en Égypte, avec la présence, il faut bien le souligner, de l'Italie, qui elle aussi est un membre très important de l'OTAN, et une stratégie de la tension menée par la Turquie au bénéfice, il faut bien le dire, d'une certaine abstention américaine, sans doute due au rôle stratégique de la Turquie pour affronter les crises de la région, évidemment en Syrie, mais aussi dans l'espace de la mer Noire.
D'ailleurs, la Turquie s'est néanmoins équipée d'armes antimissiles russes, les fameux S-400, qui ne sont toujours pas déployés, mais qui devraient l'être incessamment sous peu. Enfin, c'est ce
oui, qui concourt à une stratégie de l'attention, d'ailleurs, pour positionner la Turquie entre les deux camps. Ce qu'il y a de certain, c'est que les États-Unis n'utilisent pas et ne veulent pas utiliser l'OTAN comme instance arbitrale et comptent plutôt sur, par exemple, la médiation que vient d'annoncer le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, de retour de Doha, appelant à une résolution, on peut qu'en s'en féliciter, appelant à une résolution pacifique et diplomatique du conflit. Évidemment, il y a des limites à cette position américaine qui entretient de bonnes relations, voire des relations très étroites, y compris d'un point de vue militaire, avec à peu près tous les protagonistes de la région, disposant d'accords militaires importants dans le secteur naval avec la Grèce, dans le secteur aérien avec la Turquie, et qui, avec Israël, évidemment, entretient des liens de proximité très nets. On a un peu l'impression que c'est un grand jeu dans lequel l'arbitre refuse de se prononcer.
Et un arbitre, évidemment, très préoccupé par ses propres échéances électorales. On a vu le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, norvégien, je crois, offrir ou même dire qu'il y avait des contacts entre Grecs et Turcs. Il y en aurait en ce moment même.
Oui, Jens Stoltenberg, l'ancien premier ministre norvégien, secrétaire général de l'organisation, mais qui est beaucoup plus en charge en fait du volet diplomatico-politique de l'organisation, et a un bilan qui est significatif. Hein. Mais en la matière, il surestime vraisemblablement ses capacités de médiation. Mais que n'aurait-on pas dit s'il n'avait pas pris cette initiative ? Et je pense que ça n'est pas de lui que viendra la solution, mais l'OTAN doit évidemment essayer de ramener un minimum de cohésion dans une alliance qui, évidemment, ne vise pas l'unisson ou l'unité.
Néanmoins, la Turquie s'est toujours présentée au sein de cette alliance comme le meilleur rempart contre la Russie. Or, le pas de deux entre Erdogan et Poutine, qui cultive d'ailleurs certaines caractéristiques communes,
C'est quoi? C'est du tango?
Alors, oui, effectivement, c'est un tango où les partenaires s'éloignent et se rapprochent régulièrement l'un de l'autre, parfois jusqu'à s'affronter les armes à la main, notamment sur les enjeux syriens et sur la maîtrise de l'espace de mer Noire. Certains pointeront l'incohérence des positions de la présidence Erdogan, d'autres l'habileté, hein, qui réussit à trouver des soutiens au Kremlin lorsqu'il s'agit d'entrer en tension avec les Européens ou avec les Américains, et qui réussit à s'attirer une abstention de bon aloi de la part du président américain, cette fois lorsqu'il s'engage dans l'intervention très importante de cet hiver en Libye, que vous avez déjà mentionné, qui est à l'origine d'un conflit territorial renouvelé avec la Grèce, puisqu'il s'agit effectivement d'un accord qui est dénoncé comme illégal par le premier ministre Mitsotakis grec, qui a dénoncé dans les colonnes du Monde il y a quelques jours cet accord illégal conclu par la présidence Erdogan. On le voit bien, et on en revient à ce thème qui nous occupe depuis le début, le gaz est un des aliments de ce conflit, mais il ravive des conflits et des tensions qui sont très anciennes, qui préexistaient à cette rivalité énergétique économique, et qui donne libre cours à une stratégie de la tension et à un cavalier seul de la part de la Turquie, à une reconfiguration d'alliance au sein même de l'Union européenne.
Ahmet İnsel, je rappelle que vous êtes économiste et vous étiez éditeur aussi à Istanbul, vous êtes politologue. Le président turc affiche de plus en plus ouvertement son hostilité à l'Union européenne, avec, il faut bien lire, une bonne part d'humiliation, puisque les négociations d'association, les accords commerciaux et éventuellement l'entrée de la Turquie au sein de l'Union ont occupé la scène diplomatique pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle soit vraiment gelée, mais il n'a jamais affirmé d'opposition contre l'OTAN proprement dit. Au contraire, il souligne à chaque fois l'appartenance de la Turquie, membre essentiel de l'OTAN.
Oui, oui, il n'y a pas de la part de Tayyip Erdogan, il n'y a pas un discours contre l'OTAN, sauf quand Emmanuel Macron avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN, même Tayyip Erdogan avait un peu critiqué violemment Macron sur c'est sa mort cérébrale et non pas celle de l'OTAN, etc. Donc il y a un engagement de la part de Tayyip Erdogan dans l'OTAN, mais par contre, dans ses alliés d'extrême droite nationaliste ou laïque nationaliste, il y a à la fois une volonté d'être dans l'OTAN, mais en même temps un regard tourné vers ces alliances du capitalisme autoritaire dans la Russie, la Chine, ce qu'ils appellent l'espace eurasiatique. Il y a une ambivalence. Lui, peut-être pas tellement, mais autour de lui, il y a une ambivalence à ce sujet. Et je voudrais aussi rappeler une autre chose, c'est que dans ce conflit qui est ancien en fait sur la délimitation des plateaux continentaux, des zones économiques exclusives, etc., il y a deux ou trois choses différentes qui se superposent. La Turquie n'a pas signé effectivement la convention de Montego Bay et il y a un problème que la Turquie et la Grèce inévitablement doivent régler par un dialogue, par une négociation bilatérale. Parce que l'application mécanique de cette convention dans la mer Égée, soit ça donne une mer Égée totalement grecque où il n'y a pas d'ouverture maritime pour la Turquie, ou soit une mer Égée totalement turque où les îles grecques sont de...
Les îles grecques, pardon.
Continentales.
Oui. Enfin, les îles grecques, il faut le rappeler, la population grecque de ces îles est grecque depuis l'Antiquité.
Non, mais ils peuvent toujours rester grecs, mais grecs dans un plateau continental turc. C'est ça ce que disait Lucas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entourés d'un plateau continental, d'un espace maritime turc. Alors que nous avons des cas, des difficultés. C'est difficile. Il faut régler cas par cas. Mais nous avons des exemples. La question de Saint-Pierre et Miquelon entre la France et le Canada a été résolue par un arbitrage international. Le Canada la France a obtenu moins que ce qu'elle demandait. Le Canada a été obligé de donner plus que ce qu'elle était prêt à donner. Les îles anglo-normandes, par exemple, c'est la même chose, où l'Espagne ne demande pas de plateau continental du côté de Ceuta et Melilla, qui sont sur les deux villes qui sont sur le côté marocain. Mais en revanche, il peut y avoir un accord cas par cas, mais pour cela, effectivement, il faut que les menaces soient arrêtées et surtout le nationalisme ne soit pas une ressource politique majeure pour des gouvernements en difficulté.
Ahmet İnsel, il y a un autre aspect du nationalisme turc, c'est l'islamisation de plus en plus.
C'est du nationalisme religieux.
Alors, on a vu Sainte-Sophie. On a vu la Chora d'Istanbul.
Il n'est pas encore passé, paraît-il. Je me suis renseigné. Il est toujours.
Ah ben ça, ce serait une bonne nouvelle parce que sinon.
Il est passé sous le contrôle, sous la propriété de la direction des affaires religieuses, mais ils n'ont pas encore transformé en mosquée. Mais ils vont le faire probablement, malheureusement, bientôt. Il y a en Turquie aujourd'hui un nationalisme religieux, un islamo-nationalisme, qui est aussi dangereux, si ce n'est plus, qu'un nationalisme laïque, mais je voudrais vraiment vous dire que ce nationalisme en question est le fervent majeur principal du conflit réciproquement et la question chypriote a été mise dans cette situation difficile réciproquement par les Grecs chypriotes et par les Turcs chypriotes dans les années 60 et après les questions sur les zones non définies. Alors, je voudrais terminer pour dire que le premier ministre grec Mitsotakis est très. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup apprécié. Il est très précis et il prend beaucoup de précautions dans son propos, dans l'article du Monde d'il y a deux jours et dans la déclaration hier au sommet de Corse.
Avant-hier,
il dit les régions de la Méditerranée occidentale dont les droits ne sont pas toujours délimités entre la Grèce et la Turquie. Donc il ne dit pas c'est la Grèce, il ne dit pas c'est. Il dit les zones ne sont pas délimitées. C'est vraiment le terme exact.
Il y a une dimension néanmoins, Ahmet İnsel, qu'il faut rappeler, c'est que certes tous nos amis depuis le début de cette émission insistent sur le fait que le gaz n'est pas l'enjeu majeur, mais c'est un enjeu pour la Turquie qui est un gros importateur d'énergie. Donc quand le président Erdogan se flatte d'ailleurs de découvertes très récentes aussi en mer Noire, ça correspond aussi à une problématique économique réelle.
Disons que c'est une problématique économique réelle dont la solution par les explorations par ce gaz naturel, nous ne sommes pas sûrs que ce soit économiquement rationnel dans 8 ou 10 ans quand on va pouvoir vraiment pouvoir les exploiter. Mais par rapport à un problème économique réel, il a trouvé une ressource symbolique pour parler d'une indépendance énergétique éventuelle de la Turquie, ou une relative indépendance énergétique éventuelle de la Turquie. Mais la Turquie avait une autre position. La Turquie avait la position d'être le nœud central du transport du gaz et du pétrole par des oléoducs et par les gazoducs des Caucases et du Moyen-Orient vers l'Europe. Mmh. Et cette stratégie qui a du plomb dans les ailes, et je crois que ce qui a encore plus rendu agressive Tayyip Erdogan, c'est d'avoir perdu dans cette stratégie de pays nœud, pays hub, pays.
Le carrefour, la plaque tournante.
Voilà, exactement. Ouais. Et en même temps qui assure la sécurité énergétique de la Turquie, mais en même temps ça met la Turquie dans une position d'intermédiaire indispensable entre l'Europe et les ressources pétrolières et gazières, surtout avec la perspective d'un conflit de plus en plus ouvert entre la Russie et l'Europe, par exemple avec l'Allemagne, pour la livraison de gaz et pétrole.
Merci Ahmet İnsel pour cet éclairage. Anna Kreti, en ce qui concerne l'exploitation du gaz, vous disiez tout à l'heure que le gaz méditerranéen sous-marin est très profond, difficile, cher, évidemment. Et puis, il n'y a pas que l'extraction quand il s'agit du gaz.
Oui, en fait, l'extraction n'est que la première phase. On a un empilement de coûts qui rendent ou pas cette ressource rentable. Il faut, une fois qu'il est, voilà, qu'on est sûr de la quantité de gaz, il faut organiser toute la chaîne de transport, distribution, liquéfaction, régazification. Donc, il y a une dépendance aux infrastructures et à des investissements de très long terme dont l'utilité locale, turque ou européenne peut être remise en question. C'est vrai que la Turquie a un peu perdu ce rôle de plaque tournante des gazoducs de l'Europe du Sud, mais il y a quand même des réalisations déjà opérationnelles. Donc il y a le gazoduc Poséidon. Je suis toujours sur ces noms.
Mais tant mieux, tant mieux, ça fait rêver.
Il y en a un qui fait moins rêver, c'est le TAP qui également contourne la Turquie, mais passe par la Grèce.
Et la nappe du côté de Chypre, c'est Artemis, je crois.
Artemis, et ils sont très inspirés. Mais et donc ces gazoducs sont opérationnels ou vont être opérationnels d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on a besoin de doubler ces infrastructures? Est-ce que la Turquie a les ressources pour les faire? D'habitude, ces infrastructures sont financées par des équipes de pays qui les exploitent, qui les construisent. Et la Turquie, en tant que cavalier seul, n'aurait pas complètement les ressources pour le faire.
D'autant que le prix du gaz, le prix du gaz
baisse.
Avec la pandémie, quand même.
Il y a eu une baisse de la demande de gaz suite à la pandémie de 4% à niveau mondial. Et encore, c'est encore plus fort si on regarde ce qui se passe en Europe. Les prévisions, même les scénarios à moyen terme de l'Agence internationale de l'énergie voient un retour à la normale en 2021. Mais l'enthousiasme, en fait, pour la demande de gaz surtout en Europe et donc en Méditerranée, est beaucoup plus modéré. Donc l'idée d'être un pays qui exporte aussi du gaz et qui revendique l'importance du gaz, entre guillemets, turc vis-à-vis du gaz russe, n'est pas non plus crédible.
Même si, comme Ahmed Insel le rappelait, entre l'affaire Navalny et la crise biélorusse, le sort du gazoduc Nord Stream, qui est en plus ligne de mire des Américains, oui, est compromis. Et la chancelière Angela Merkel elle-même a dit que il fallait peut-être envisager son arrêt.
Historiquement, le choix de doubler le Nord Stream, parce que le Nord Stream dont on parle, c'est le Nord Stream 2, ouais, qui contourne l'Ukraine, mais qui arrive toujours, approvisionne l'Europe à partir de la Russie, a été construit, a été choisi comme une priorité européenne, justement pour ne pas tomber dans l'emprise turque. Donc, il était déjà né avec cette idée de ne pas aiguiser cette guerre du gaz en Méditerranée. Comme je disais, il y a une très grosse distance dans les temps entre les moments où ces grandes infrastructures sont décidées et les moments où elles sont exploitées. On parle de 15 ou 20 ans. Et les équilibres géopolitiques et économiques, aujourd'hui, changent beaucoup plus vite que les décisions sur les infrastructures. Donc, il est possible que même quelque chose qui est déjà financé par les Russes et par, effectivement, les Français et les Allemands, pourrait être utilisé à une capacité plus faible que celle qui était prévue.
Cyril Brett, c'est là où on revient, bien évidemment, à cette emphase ou cette importance accrue de la dimension militaire, militarisée de cette guerre du gaz en Méditerranée orientale, parce que Ankara aurait déjà installé des drones armés dans la partie turque de Chypre et s'apprêterait à lancer un programme de sous-marins, un porte-avions léger. Enfin, on voit qu'il y a un programme militaire costaud prévu par Ankara.
Oui, il est d'ailleurs le fait de tous les protagonistes de la région. Comme vous l'avez déjà souligné, la guerre du gaz, c'est aussi une course aux armements. Et la base industrielle et technologique de défense turque s'est déjà distinguée depuis plus d'une dizaine d'années sur les marchés internationaux, tant dans le secteur naval que dans le secteur des communications. Quant à l'industrie de défense grecque, elle essaye de se reconstituer, notamment grâce à l'alliance américaine et grâce à l'alliance française, sans évidemment parler des grands programmes d'armement qui ont été déployés ces dernières années en Égypte et évidemment en Israël. On le voit, il n'y a guère que Chypre en fait et le Liban qui ne dispose pas de capacités militaires, non seulement fortes mais en plus en croissance. Donc on le voit, cette stratégie de la tension qui bien sûr se dégrade du fait de l'activisme nationaliste d'Erdogan et le fait d'à peu près tous les protagonistes de la région. Le président français n'est pas en reste lui-même, proposant une véritable alliance militaire à tous les niveaux, y compris industrielle, à la République hellénique.
Dorothée Schmitt, on arrive pratiquement à la conclusion provisoire de cette conversation. Quand Emmanuel Macron, dans un entretien retentissant au magazine The Economist à l'automne dernier, décrivait l'OTAN en état de mort cérébrale, beaucoup de partenaires de l'Alliance disaient qu'il y avait un problème français au sein de l'Alliance, au moins aussi important qu'un problème turc. Maintenant, est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que, au sein même de l'OTAN, et pas seulement au sein de l'Union européenne, l'analyse du président français commence à rallier davantage de soutien.
Ce seraient des soutiens attristés, au moins pour les membres de l'OTAN.
Non, je vois Cyril Brett qui sourit. Oui, on est à la radio.
Vous allez nous couper. Je reviens d'un forum de l'OTAN sur l'Est de notre beau continent. Il faut bien le dire, la position française est loin d'être majoritaire, on va le dire comme ça, parmi nos partenaires européens. Voilà, c'est poliment dit. Et en fait, il faut bien le dire, la position macroniste, aussi bien sur le symptôme de la prétendue mort cérébrale que sur les remèdes à prendre, et quand même, il faut bien lire, assez isolé.
Un peu marginal, effectivement. Moi, ce que je trouve préoccupant en termes de rapport de force au sein de l'OTAN, c'est que comme les États-Unis sont un peu erratiques, hier, je participais à une discussion où un intervenant américain nous a dit si Trump est réélu, il n'est pas impossible qu'il se retire de l'OTAN, bon, ce qui nous laisserait quand même très orphelins.
Oui. Les Britanniques. Et nous tous, en Europe.
Les Britanniques ont été remarquablement absents sur cette question de la Méditerranée orientale. Ils sont quand même garants de l'accord à Chypre. Ils ont une base militaire à Chypre. Donc, en fait, on se retrouve avec les Turcs et les Français en face à face au sein de l'OTAN aujourd'hui, qui sont les deux puissances militaires qui sont prêtes à montrer les muscles. Et c'est très problématique de les voir dans un quasi-affrontement. Par ailleurs, effectivement, la course aux armements, comme le soulignait Cyril Brett, c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, la première puissance navale, c'est l'Égypte dans la région. Les Égyptiens qui hésitent aujourd'hui à s'engager dans le conflit libyen. Et que la course aux armements entre les Grecs et les Turcs est quelque chose qui a pesé sur le budget grec pendant des décennies, et on était quand même assez contents d'être sortis de cette course aux armements parce qu'elle empêchait aussi le développement de toutes sortes d'autres politiques publiques. Et aujourd'hui, la Grèce est un pays qui sort d'une crise de la dette qui a amené à des politiques d'austérité terribles, et les voir prêts, à acheter des Rafales français qui sont l'armement le plus coûteux du marché et qu'on arrive à très difficultueusement à faire acheter par des grosses puissances, c'est quand même très paradoxal. De s'imaginer que les Grecs qui sortent de la faillite vont acheter des Rafales pour s'armer face aux Turcs qui sont censés être nos alliés dans l'OTAN. Donc on est vraiment dans un... Je pense qu'il y a aussi vraiment un paradoxe français dans le fait de présenter tout ceci comme une position européenne. Comme le souligne Cyril Brett, on est plutôt isolé au sein de l'OTAN. Les Allemands sont extrêmement mal à l'aise.
Alors justement, on n'a pas encore parlé de Berlin. On a vu que Angela Merkel maintient un dialogue avec le président turc. D'abord, elle a près de 3 millions de Turcs en Allemagne, et il ne faut jamais l'oublier. C'est sur le plan économique et commercial, les liens sont importants. Berlin essaye de modérer Emmanuel Macron, ou, comme la diplomatie française s'efforce de le souligner, enfin l'Élysée en tout cas, Berlin et Paris marchent main dans la main sur cette question-là comme sur les autres.
Alors ce que je vois des officiels et des analystes allemands que je fréquente en ce moment beaucoup sur cette question, c'est qu'en fait ils partagent avec les Français un diagnostic très inquiets à l'égard de l'expansionnisme de la diplomatie turque. Donc ils sont persuadés qu'effectivement les Turcs, même s'ils veulent négocier, ne prennent absolument pas les méthodes nécessaires, qu'ils veulent être en position de force et que donc il faut les arrêter. En revanche, sur la façon de les arrêter, les Allemands ne sont pas d'accord avec les Français. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement des mesures diplomatiques, des sanctions économiques seraient plus efficaces. Mais pour le moment, on n'arrive pas du tout à s'entendre entre Européens sur la... sur l'attitude à tenir. Et comme le disait Cyril Brett, moi j'ai entendu des Polonais me dire hier qu'ils pensaient que toute cette affaire détournait juste l'attention de la Biélorussie. Et les Espagnols dire qu'ils allaient se rapprocher des Italiens parce que finalement au sein de l'OTAN ils avaient le sentiment d'être des puissances intermédiaires qui pourraient avoir quelque chose à dire parce qu'ils s'inquiétaient de voir les Turcs et les Français s'exprimer trop. Donc on est dans une cacophonie absolue, ce qui est très inquiétant à la fois pour l'avenir de l'Union européenne mais pour notre avenir nous en tant que nation, parce que nous n'avons pas les moyens, je le crains, de notre politique à l'heure actuelle.
On a vu, et c'est ma dernière question, on a vu le président Emmanuel Macron dans la conférence de presse qu'il a accordée en Corse après la réunion de jeudi, faire état, je le cite, du jeu hégémonique de puissance que sont la Russie et la Turquie. Le fait de mentionner la Russie à ce moment-là, de la crise, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah écoutez, Emmanuel Macron change de discours à l'égard de la Russie à peu près tous les 6 mois. Peut-être qu'il aura changé d'avis sur la Turquie dans 6 mois.
Bien, en attendant, espérons donc qu'il n'y ait pas d'accrochage naval ou aérien dans cette partie de la Méditerranée qui nous est chère à tous. Merci à vous, Anna Créti, vous enseignez l'économie à l'université Paris-Dauphine. Merci à Dorothée Schmitt de l'IFRI. Je rappelle que vous avez publié chez Taillandier en 2018 La Turquie en 100 questions, et c'est véritablement une collection chez Taillandier qui est extrêmement précieuse à qui s'intéresse à ces problématiques. Merci à vous, Cyril Brett. Vous publiez ces jours-ci, ou quasiment, oui, presque aujourd'hui, ou hier, chez Armand Collin, comprendre le terrorisme au XXIe siècle, les 10 attentats qui ont changé notre monde. C'est véritablement un thème passionnant. Je remercie Lucas Tsoukalis, président de la Fondation Hellénique pour l'Europe et la politique étrangère, professeur à l'École des affaires internationales de Sciences Po. Merci à Ahmet İnsel, qui a publié La nouvelle Turquie d'Erdogan à la découverte en 2017. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Anthony Thomasson. Hugo Boursier a bien évidemment, comme chaque semaine, préparé cette émission. Et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.